Bienvenue à toutes et à tous sur On s'en fout, le podcast qui était censé parler de tout sauf du football, mais On s'en fout se met à collaborer avec le média K-Média. Julien et Bastien sont avec nous pour parler un peu de cette Coupe du Monde et de cette équipe de Suisse, de ses chances, etc. Donc, on transgresse un peu nos bases et nous allons parler de foot. Julien, Bastien, comment allez-vous ?
Salut Nicolas, ça va super. La tension monte gentiment, donc c'est génial.
Salut Nico, pareil pour moi. À moins de 48 heures du match, on commence déjà à sentir la tension monter.
Jusqu'à présent, vous avez pu vous mettre un peu dans le bain de cette Coupe du Monde. Un bref regard sur ce début de Coupe du Monde avant d'enchaîner sur cette équipe de Suisse. Bastien, qu'est-ce que ton avis général actuellement ?
Alors, on remarque de grosses différences entre certaines équipes, un niveau de jeu qui n'est pas encore ce qu'on pourrait attendre. Mais j'ai bon espoir que dans les prochains jours, le niveau augmente avec des affiches aussi plus alléchantes et qu'on passe un beau mois devant cette Coupe du Monde.
Julien, je sais que tu étais un fan absolu de l'équipe d'Argentine. Est-ce que tu as dû sortir la boîte à mouchoirs aujourd'hui ?
Ah, il y a un petit côté nostalgique par rapport à Lionel Messi et forcément une grande déception de voir cette équipe perdre ce premier match contre une équipe qui était solidaire, mais malgré tout clairement abordable pour l'Argentine, donc non, déçu. Après, je suis quand même content de voir que cette Coupe du Monde, elle peut et elle va nous réserver des surprises.
On parlait de l'équipe de Suisse en préambule, une équipe de Suisse composée, vous me corrigez si je dis faux, de 26 joueurs, dont 4 gardiens, qui s'est envolé il y a quelques jours de Zurich pour le Qatar, escale à Abu Dhabi pour y affronter le Ghana contre qui la Suisse a perdu 2-0 contre Ghana qui fait partie des équipes les plus jeunes qualifiées à cette Coupe du Monde. Ouais, voilà, quel est votre regard sur cette préparation? Je sais pas si on peut dire une préparation parce que c'est très très court, mais comment vous la sentez, cette équipe?
C'est bien l'équipe la plus jeune de la compétition, le Ghana. C'est une équipe très talentueuse. Pour revenir un petit peu sur ce premier match, ce match d'entraînement, je dirais presque, au-delà du terme préparation. Alors voilà, l'objectif, on le sait, de Moratti Akin, c'était de tester un système à 3, c'était de donner un peu de temps de jeu à certains joueurs qui en avaient moins, c'était surtout de limiter l'impact des blessures ou de la fatigue, et puis c'était également de voir un petit peu comment l'équipe allait réagir avec un match à 11h. Heure suisse, mais donc en début d'après-midi pour l'heure locale. Je dirais que le résultat de ce match est anecdotique, même si forcément on est tous un petit peu déçus quand la Suisse perd, et puis on l'est après ce match-là, mais il faudra être présent contre le Cameroun, et c'est la seule chose qui compte.
Bastien, à ton avis, ils étaient restés à l'apéro, ou qu'est-ce qui s'est passé avec cette équipe de Suisse?
Non. Non, mais comme l'a dit Julien, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Mourad Yakin a fait des tests, la défense à 3, notamment en termes de choix de joueurs, plusieurs joueurs qui n'avaient pas beaucoup de minutes dans les jambes. Il faut aller s'habituer à la température, qui n'est pas évidemment la même qu'ici. En plus, ils en avaient atterri, si je dis pas de bêtises, seulement 2 jours plus tôt au Qatar. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que je ne m'inquiète pas plus que ça. D'autant plus que on n'a pas vu que des bonnes choses côté Suisse. Donc, je pense qu'ils en ont gardé sous le pied, pardon, pour jeudi et l'affrontement avec le Cameroun.
Ah ben, je l'espère, parce que s'ils ont rien gardé sous le pied, on peut vraiment commencer à avoir peur, hein. Parce que là, c'était, de mon avis, c'était très faible. Pas d'intensité. Alors, peut-être que la chaleur joue un rôle là-dedans. On sait qu'au Qatar, ben, les stades seront climatisés, donc normalement, ça devrait mieux convenir aux organismes européens, en tout cas. Mais moi, j'étais un peu surpris qu'on fasse des tests ou des essais sur cette défense. Sur voilà, j'étais un peu surpris. Je vous dis franchement, hein, j'ai un regard. Je suis d'habitude assez optimiste, mais je suis assez pessimiste sur cette équipe de Suisse et sur ses chances de qualification. Julien, comment tu vois ça, toi, pour cette bataille dans ce groupe qui est quand même extrêmement relevé, hein, dans cette Coupe du Monde, peut-être un des plus relevés.
De par le groupe, je peux tout à fait comprendre qu'il y a une part de pessimisme, parce que oui, le groupe va être compliqué, le Cameroun, la Serbie, le Brésil, aucun match ne sera donné à la Suisse, ce sera dur, il faudra jouer à 100%, mais si l'équipe de Suisse joue à 100%, je suis optimiste, je pense que la Suisse, sur les différents secteurs de jeu, est complète, et si on prend par exemple en comparaison avec la Serbie, qui est un petit peu l'équipe qui nous fait peur en confrontation directe, au-delà du Brésil bien entendu, je pense que sur les différents secteurs de jeu, on est plus complet, on est supérieur de manière générale à cette équipe. Par contre, tu parles de problèmes d'intensité qu'il y a eu face au Ghana, et puis il y a un chiffre précis qui a été donné par l'analyste de la Nati qui a constaté qu'il y avait moins 30% d'intensité sur ce match par rapport à la moyenne des derniers matchs de l'équipe de Suisse. Donc oui, forcément, c'était relativement faible, mais j'ai confiance au staff de l'équipe de Suisse et puis aux joueurs de la Nati pour mettre tout en œuvre pour réussir ce premier match avec un système qui sera avec une défense à 4. Il faut lever le voile par rapport à ça et une équipe qui sera beaucoup plus dans les standards de ce qu'on a vu lors des derniers matchs contre la République tchèque et l'Espagne notamment.
Avec un Cameroun qu'on connaît peu du point de vue européen, que la Suisse a, je ne sais pas si elle l'a déjà affronté, j'ai pas les chiffres en tête, et avec un côté un peu émotionnel, vu que Brel Mbolo aurait pu jouer aussi pour le Cameroun, étant donné qu'il est né à Yaoundé. Bastien, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu penses que l'aspect émotionnel, comme on a pu le voir il y a quelques années, la Suisse et la Serbie qui s'étaient affrontées au Mondial russe avec tous nos joueurs d'ex-Yougoslavie, où c'était très très tendu. Peut-être ça va l'être de nouveau pour ce troisième match de la Suisse. Mais pour ces joueurs, en tout cas Brel Mbolo, comment tu vois ça, Bastien?
Moi, je pense qu'en tant que sportif professionnel, il aura sûrement quelques petites émotions particulières avant et probablement après le match. Mais je pense qu'une fois rentré dans le vestiaire, à sa place, qu'il enfile le maillot, qui est la causerie du coach, je pense que il aura à cœur de performer pour l'équipe qu'il représente et aussi pour montrer que indirectement au Cameroun il y a de bons joueurs. Et c'est un contexte complètement différent de 2018, étant donné que là c'est on vient à parler des racines plutôt que deux pays qui étaient autrefois en conflit. Donc je pense qu'il n'y aura pas les mêmes histoires qui entoureront la rencontre, en tout cas.
Votre idée à vous deux, Julien, Bastien, c'est de voir quand même la Suisse passer ce premier écueil, une première victoire pour la Suisse, d'après ce que j'entends. Mais quel serait le score, Julien, si tu dois partir sur un pronostic?
Bon, déjà que, comme tu le soulignes, la victoire, elle est indispensable sur ce premier match. Il ne faut pas passer à côté, comme ça a été le cas contre les Pays de Galles, par exemple, pour du dernier Euro.
Comme c'est souvent le cas, hein. C'est souvent le cas avec la Suisse.
Exactement. Là, je pense qu'il faudra rentrer plein pied dans cette Coupe du Monde avec une victoire. Moi, je vois une victoire 2-0. La Nati avec un match sobre, rien d'exceptionnel, mais rien de catastrophique. On sent que l'équipe, elle est en maîtrise, qu'elle est encore un petit peu en rodage, parce qu'elle sera encore en rodage. C'est souvent le cas, comme tu l'as souligné. Et je vois quand même la Suisse gagner. Et je vois Brian Bolo marquer un but.
Le deuxième but serait pour qui?
Je pense que Shaqiri va marquer. Shaqiri est un joueur qui brille de manière très régulière dans ses compétitions, même si on peut penser qu'il arrive en manque de rythme, et c'est forcément le cas, il arrive un petit peu en manque de rythme par rapport à d'autres. Shaqiri brille toujours dans les compétitions européennes, marque toujours des buts sensationnels. On se rappelle de son but contre la Turquie lors du dernier Euro. Il a aussi marqué contre l'Espagne. D'ailleurs, il avait mis un doublé contre la Turquie. Donc, il finit à 3 buts. Il sera présent durant cette Coupe du Monde et pourquoi pas contre le Cameroun.
Bastien, ton regard sur ce premier match Suisse-Cameroun qui se déroulera le 24 novembre à 11h du matin?
Alors pour moi, le plus important, c'est de gagner. Pour moi, c'est clair, il faut rentrer dans cette compétition de la meilleure des manières et également se mettre en confiance avant de jouer le Brésil, surtout. Je pense que ça peut être un match décisif, le match du Brésil, car je pense que nous battrons le Cameroun tout comme la Serbie, mais en faisant un point ou peut-être voire plus face au Brésil, ça pourrait faire la différence éventuellement dans un duel avec la Serbie pour la deuxième place. Donc moi je vois la Suisse gagner dans la difficulté, un peu comme elle l'avait fait en 2014 face à l'Équateur. Mais oui, je vois une victoire 1-0, 2-1 de la Nati.
Contre le Cameroun, et tu disais même, si j'ai bien entendu ce que tu as dit, un match nul contre le Brésil et une victoire contre la Serbie. Donc une Suisse qui marquerait 7 points dans ce premier tour.
Oui, pour moi, il y a la possibilité, la qualité dans cette équipe pour réaliser cela. Et j'estime qu'on peut avoir, au vu des dernières prestations, notamment face à l'Espagne, le Portugal ou même il y a un an à l'Euro, je pense qu'on peut le faire. Et il faut avoir confiance en cette équipe suisse.
Avec une Suisse qui finirait deuxième finalement ou qui passerait devant le Brésil, parce qu'après ça peut offrir d'autres perspectives effectivement si on finit premier de groupe. Dans ton regard, Bastien, c'était quoi, une équipe de Suisse qui finit deuxième ou première?
Plutôt deuxième
avec un Brésil.
Oui, je pense. Oui, parce que
pas mal de buts.
Voilà, je pense que ça se jouerait au goal average. Je vois mal le Brésil ne mettre qu'un but face au Cameroun ou à la Serbie. Donc, à voir. Mais ouais, je pense une deuxième place pour la Nati.
Julien, est-ce que tu partages l'optimisme de Bastien avec une Nati qui ferait 7 points dans ce premier tour?
Ce serait super de faire 7 points, c'est une certitude. Je pense que le dernier match sera vraiment très compliqué contre la Serbie. On en avait un petit peu parlé en off aussi, Nicolas, et on pense que la Serbie va être vraiment revanchard de cette équipe de Suisse et va être ultra, ultra motivée. Donc c'est vrai que arriver à ce match-là avec 4 points, je pense que le job est fait. Même s'il faut faire le dernier match, mais elle arriverait en confiance et elle serait prête à supporter les attaques serbes qui offensivement est très dangereuse, hein, et puis elle fait relativement peur, il faut pas se mentir. Mais non, je suis optimiste, je pense que la Suisse peut et va passer, mais ce sera compliqué, même si il faut vraiment bien rentrer avec ce premier match, et puis après il faudra se montrer très solidaire, que ce soit contre le Brésil ou contre la Serbie. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire la différence, c'est la solidarité.
Si les dieux du football ne vous entendent pas et la Suisse perd son premier match contre le Cameroun, qu'est-ce qui se passe? Mourad Yakin est licencié sur le champ. On change toute l'équipe et puis on prend les joueurs du slow et divers dans sport. Ou on fait quoi?
Bah écoute, si on perd le premier match, il faudra aller chercher des points ailleurs. C'est sûr que
6 points sera au plus.
Exactement, voire 4. Tu peux des fois passer à 4. Ça peut arriver. C'est pas très très compliqué. Ce qui est sûr, c'est que la Suisse va devoir aller chercher des ressources assez fortes pour se relever d'une défaite au premier match contre le Cameroun. Mais cette équipe de Suisse, encore une fois, elle nous l'a montré lors du dernier Euro, où après deux matchs, elle n'a qu'un point parce qu'elle a perdu de manière assez lamentable contre l'Italie, parce que ça manquait de tout et d'intensité et de solidarité. Et puis elle avait fait un match nul très moyen contre le Pays de Galles. Après, elle fait un super match contre la Turquie, puis rebelote contre la France où à 3-1 à 10 minutes du terme, tu te relèves de ça et puis tu vas te qualifier au penalty. Donc même s'il y a une défaite contre le Cameroun, cette équipe de Suisse, on sait qu'elle a les ressources mentales pour aller faire quelque chose. Mais c'est sûr qu'il faut s'éviter cet obstacle-là qui est inutile et puis essayer d'aborder les deux prochains matchs avec un plein de confiance. Surtout que malgré tout, on a quand même perdu contre le Ghana, donc c'est quand même dans les têtes. Une défaite, c'est toujours dans les têtes.
Est-ce que le Ghana ressemble à ce point au Cameroun, Bastien?
Alors pour moi, pas du tout. Déjà rien que sur le papier, c'est pour moi l'effectif du Ghana est plus fort et plus étoffé que celui du Cameroun. Et je vois l'équipe du Cameroun un peu en manque de repères, notamment lorsque l'on voit les derniers résultats, qu'on voit qu'ils vont perdre contre l'Ouzbékistan en septembre, la Corée du Sud, encore le lendemain du match de la Suisse, ils vont faire un match contre le Panama. Je vois le Ghana plus sur une dynamique positive en termes d'effectifs et également de résultats. Donc non, pour moi, une équipe ne peut pas ressembler à une autre.
Julien, ton regard?
C'est compliqué, mais non, je pense pas que c'est les mêmes équipes, même si ils jouaient forcément le même système, même si des fois ils ont pu évoluer à trois derrière. Je pense qu'ils ont des joueurs différents. Il y a un effectif très jeune du côté du Ghana et un peu moins jeune du côté du Cameroun. Donc, je pense qu'on peut pas vraiment tirer de parallèle entre ces deux équipes, hormis le fait que c'est des équipes africaines.
Ce premier 11 de Yakin, le premier 11 qu'il alignera contre le Cameroun, c'est lequel, Bastien, pour toi?
Alors moi j'imagine qu'on partira avec Sommer au but, avec une défense formée par Ricardo Rodriguez à gauche, Manuel Akanji dans l'axe, avec Nico Elvedi et Sylvain Vinmer à droite. Après au milieu, j'imagine un nouveau milieu à trois avec Chaka, Freuler, Jurilso, et puis devant Shaqiri à droite, Mbolo dans l'axe et j'espère Noah Okafor à gauche.
Julien,
le vrai point d'interrogation de cette équipe, c'est qui va jouer poste offensif à gauche. Est-ce que c'est Noah Okafor? Est-ce que c'est Ruben Vargas? Je pense que c'est l'interrogation, elle est là. Le reste de l'équipe, c'est relativement clair. Il n'y a plus trop de débats entre Zakaria et Gibrisso à l'heure actuelle. Il y a potentiellement un autre poste qui pourrait être amené à être discuté, mais ça va vraiment être ce poste-là à gauche entre Okafor et Vargas. Et j'espère aussi Okafor. Il sort d'une super saison avec Salzbourg. Il a des attributs physiques et techniques et de percussion que peu de Suisses ont. Et j'ai vraiment envie de voir cette association à trois, hein, Shaqiri, Mbolo et Okafor. Même si j'ai l'impression dans la tête de Mourad, Vargas part peut-être avec une légère avance simplement par rapport au dernier match et sur le fait que la formation qu'il avait alignée avec Vargas, ça avait plutôt bien marché. Et Vargas avait fait des super matchs, hein, des super perfs. Donc voilà, je suis un petit peu partagé, mais le 99% de l'équipe, on est un petit peu tous d'accord, je pense. On repart sur une base saine à 4 et puis une équipe relativement standard.
On a dépassé les 20 minutes. Je vous propose encore ce qu'on va faire, c'est qu'on parle peut-être des absents de l'équipe de Suisse ou qui est-ce que vous auriez pu convoquer en plus, et puis peut-être aussi votre regard à la fin sur cette polémique sur les brassards, peut-être juste dire un mot, parce que la Suisse fait partie des équipes qui voulaient mettre un brassard côté intégration, puis qui n'ont pas pu le faire. Finalement, j'ai entendu aujourd'hui qu'il y avait des équipes qui allaient finalement faire quelque chose, et aussi le regard sur le en parlant de cette intégration, peut-être sur le maillot belge qui a été interdit ou demandé qu'il soit transformé. Je vais reprendre, ok? Ça vous va?
Oui.
Merci Julien. Moi, je regardais un peu cette composition de l'équipe de Suisse, c'est 26 appelés. Est-ce que Mourad n'aurait pas pu choisir d'autres profils? Quels sont les grands perdants ou les grands absents de cette sélection, à ton avis?
Bon, clairement, Sakekoun Babou, Steven Hubert, même si Hubert, c'est un peu plus compliqué quand même, il était de toute façon pas au dernier rassemblement et il joue peu. Mourad a fait le choix de pas choisir de deuxième latéraux de métier, donc à Mbabou et à Lokomba. C'est un vrai risque. Personnellement, je n'aurais pas pris ce risque. J'aurais doublé les postes pour rester vraiment de ce système classique qui réussit à l'équipe de Suisse. Même si Eddie Milson peut jouer un petit peu ce poste de piston droit, je pense quand même privilégier la piste Mbabou qui, malgré tout, avait quelques minutes dans les jambes. C'était pas excellent, mais il avait quand même quelques minutes. Et puis j'aurais pris Lokomba qui peut évoluer à gauche, même si sa prestation contre le Portugal cet été avait été très décevante. Mais je pense que pour l'avenir, c'était important de l'intégrer. Donc voilà, je pense que c'est les deux grands perdants de ce rassemblement.
Donc finalement, tu aurais retranché un gardien, si je comprends bien, plus Eddie Milson Fernandez, et tu aurais pris Babou et Lokomba.
Exact.
Ok. Bastien, est-ce que t'as le même regard que Julien ou t'aurais fait d'autres choix?
Alors pratiquement, moi, je serais parti avec trois gardiens et à la place j'aurais pris Jordan Lokomba. Pour une simple raison, sa polyvalence. Je me souviens que ses derniers matchs avec Nice, il a joué sur le côté gauche de la défense. Il a fait de bons matchs, d'ailleurs surtout contre Lyon. Et je pense qu'il aurait pu être d'une grande aide en cas de défaillance du côté de Rodriguez. Surtout que je ne vois pas Stéphane défendre sur un joueur comme Vinicius ou Rodrigo, pour ne citer que. Donc oui, j'aurais pris Lokomba. Mbabou, non. Je trouve que la décision de Moratiakin de ne pas le prendre est plus que justifiée. Il ne joue pas. Et à l'inverse, Eddie Milson Fernandez est en pleine renaissance du côté de Mayence en Allemagne. Il évolue d'ailleurs sur le côté 3 de la défense à 3. On sait qu'il peut jouer dans le couloir, à gauche, à droite. Donc voilà, c'est le seul changement que j'aurais fait.
Est-ce qu'on n'aurait pas pu espérer une surprise de Yakin sur le côté gauche? Je donne pas plus d'informations que ça, mais est-ce qu'il y aura un joueur suisse qui aurait pu occuper le flanc gauche, qu'aurait peut-être pu faire partie d'un rassemblement précédent puis qui ne l'a pas été. Est-ce que vous auriez vu quelqu'un d'autre pour... Moi aussi, hein, Julien, ça me manque, ces deux animations de piston sur les côtés.
On aurait pu avoir une surprise à gauche. C'est vrai que si on regarde dans le championnat suisse, un joueur qui a évolué sous Yakin, hein, avec l'équipe de Suisse, Willis Garcia, qui malgré tout performe avec Ibé, même si peut-être ces derniers temps c'est un peu moins bon que ce qu'on a pu connaître par le passé, mais ça reste quand même ça reste quand même très sérieux, hein, ses performances. Malheureusement, quand il a joué avec l'équipe de Suisse, il n'a pas été au niveau qu'on attendait. Je pense qu'il a, il a grillé un petit peu sa carte. Miro Muheim joue en deuxième division allemande. Donc, tant qu'il ne sera pas en première division, à mon avis, les portes de l'équipe de Suisse seront fermées. Et puis, d'autres joueurs à gauche, on pourrait penser à Isaac Schmidt, mais qui maintenant est un peu plus dans l'axe du terrain. Donc, c'est compliqué. On sait que c'est un poste en Suisse où on a du mal à produire des joueurs. Depuis Rodriguez, il n'y a quasi pas eu de concurrence. Et puis, on est en train de bricoler avec malgré tout un droitier qu'on pourrait mettre à gauche. On parle
de Lotomba. C'est ça, avec Lotomba.
Mais c'est vrai que qu'on aurait pu se dire, ok, il y a des solutions d'avenir, hein, que ce soit Muheim, Garcia, dans une moindre mesure, et également Schmidt, hein, qui sont des jeunes joueurs. On aurait pu dire, ok, on prend le pari d'en intégrer un pour qu'il prenne le pouls de la compétition et qu'on essaye.
Ouais, c'est vrai. Écoutez, messieurs, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Je vous remercie d'avoir pris ce temps aujourd'hui. En plus, c'était en plein match France-Australie, où la France est en train de gagner quand même à l'heure où nous enregistrons cet échange-là. On se reverra dans très peu de temps, dans quelques jours après ce premier match de la Suisse pour en parler et pour voir ce qui s'annonce pour cette équipe nationale en mission pour remporter la Coupe du Monde au Qatar, parce que c'est la mission qu'elle s'est donnée. J'aimerais profiter aussi de cette opportunité d'avoir cette plateforme pour parler de football et d'avoir une pensée très émue et par rapport à mon ami Karim Gazeta qui a perdu la vie très tôt lundi matin en Bosnie. Voilà, je profite de cette plateforme pour adresser encore toutes mes condoléances à la famille, aux proches de Karim et Karim, j'espère que tu seras bien là où tu es maintenant. Prenez soin de vous, Julien. Prenez soin de vous, Bastien. Et bonne Coupe du Monde à tous.
Ciao. Ciao, merci.